Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau présentée aujourd'hui par Pierre Hivernat, notre partenaire de la plateforme des cultures du goût alimentation générale. Cher Pierre, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors pour cette chronique de fin d'émission, soit vers 12h25 aujourd'hui, c'est un livre dont vous nous parlerez.
Oui, je vais vous parler d'un livre d'histoire, mais qui est bourré de petites histoires sur l'alimentation qui sont succulentes.
À tout à l'heure, Pierre Hivernat. Matteo Caranta est avec nous. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez, quant à vous, le souvenir gustatif d'une personnalité, autrement dit la Madeleine, en référence évidemment à Proust. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine ?
Eh bien, cette semaine, j'ai rencontré la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui est remontée pour sa Madeleine aux vacances niçoises de son enfance, vous verrez.
À tout à l'heure, 12h15. Et savez-vous que c'était dimanche dernier Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et que mercredi prochain, le 9 octobre, ce sera Yom Kippour, le jour du grand pardon, la fête la plus sacrée de l'année pour les croyants. C'est l'occasion, pour les bonnes choses, de consacrer une émission à la cuisine juive, ou plutôt, disons, aux cuisines juives.
Elle, c'est Mamie Julia, mais elle préfère quand je l'appelle Mamie d'amour. Tiens, d'ailleurs là, elle s'apprête à me concocter son merveilleux bouillon de Kneidler.
Là, tu mélanges deux œufs avec la farine et je vais mettre de l'huile.
La prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger un bouillon de Kneidler.
Avec le plus grand plaisir.
Les Chaim.
Et comme toujours, c'est une affaire de famille, comme on peut le voir dans ce court-métrage Kneidler de Julia et Frankie Wallach, où l'on voit la grand-mère et la petite-fille cuisiner. Pour parler des cuisines juives, nous sommes en compagnie de deux invités. Claudia Roden est au téléphone avec nous. Bonjour madame.
Bonjour.
Écrivaine culinaire, vous êtes l'autrice d'un livre qui est considéré comme la Bible de la cuisine juive. Le livre de la cuisine juive, c'est même son titre. Il a paru aux éditions Flammarion il y a quelques années. Il a été couronné par une petite dizaine de prix internationaux. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Et puis avec nous, en studio, autour de la table aujourd'hui, se trouve Florence Kahn. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la boutique éponyme rue des Rosiers à Paris, qui est une boutique de gastronomie yiddish, on peut le dire
absolument
comme ça, traiteur. Vous êtes l'autrice, vous, en 2009, avec Stéphane Lagorce, d'un livre de recettes fameux, Le Grand Livre de la Cuisine Juive Askenaz, paru aux éditions Hachette. Je voudrais qu'on commence avec vous, Claudia Roden, par écarter la question que tout le monde se pose et que nous nous sommes nous-mêmes posés dans l'équipe en préparant cette émission. Est-ce que ça existe, la cuisine juive ?
Oui, il y en a plusieurs, pas une. On peut dire qu'il y a deux grands groupes, le groupe Ashkenaz et le groupe Sépharad. Le groupe Ashkenaz, c'est le groupe du Nord. C'est une culture qui est née en Allemagne, qui s'est développée en Pologne, en Russie et les pays de l'Europe de l'Est. Et la cuisine Sépharad, c'est une cuisine qui est différente dans chaque pays, et qui se trouve surtout dans la Méditerranée et dans les pays de l'ancien Empire ottoman, qui se trouve surtout dans des pays musulmans.
Est-ce que vous diriez qu'il y en a une meilleure, plus riche ou plus diversifiée que l'autre ?
Oui, la cuisine ashkénaze est plus standard, parce que c'est une cuisine et une culture qui s'est développée pour presque toutes les populations ashkénazes, ont eu le même parcours, les mêmes origines, et ils ont développé une cuisine qui est née en Allemagne, et c'était le bagage culturel qu'ils ont emporté là où ils partaient. Et que jusqu'à présent, leur cuisine est plus ou moins la même, même s'ils viennent de plusieurs pays différents. Ils ont ajouté des recettes, disons, à certaines époques, des recettes de l'Empire autrichien, mais la cuisine juive séfarade n'a pas eu du tout les mêmes origines. Elle s'est développée dans plusieurs endroits, mais il y a quelquefois des similarités. Et ces similarités sont parce qu'il y a eu des grands mouvements de population.
Florence Kahn, la cuisine ashkéna serait plus standard, dit Claudia Roden, que la cuisine séfarade.
Moi, je vous ai vu ouvrir les yeux. Je vais répondre plus précisément à votre question. Est-ce qu'il y en a une plus colorée que l'autre? Alors oui, pour moi, la cuisine séfarade est beaucoup plus colorée. Elle porte les couleurs de l'Orient, de l'Afrique du Nord, avec une énorme variété de fruits, de légumes, de choses extrêmement vivantes, comme ça, chatoyantes à l'œil. La cuisine ashkénaze, elle, est faite de choses très simples dans les pays du Nord ou dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. On trouve des produits beaucoup plus simples et beaucoup moins ensoleillés. Donc forcément, elle est moins colorée. Elle n'en est pas moins savoureuse.
Florence Kahn, vous pouvez le dire parce que la cuisine ashkénaze, c'est votre spécialité, en particulier dans cette boutique que vous dirigez rue des Rosiers à Paris. Et en ce moment, comme on est entre deux fêtes, c'est la période des fêtes, la cuisine ashkénaze, moment de fête, c'est une cuisine extrêmement riche.
Extrêmement riche, extrêmement goûteuse, extrêmement sucrée aussi, parce que vous savez que à Rosh Hashanah, on doit manger des choses sucrées, que l'année qui commence soit douce, et on confirme tout ça, bien entendu, à Yom Kippour. Donc, beaucoup de gâteaux. D'ailleurs, le jeûne de Kippour, il est préparé avant Kippour, en mangeant beaucoup de choses sucrées, et notamment des produits comme des dattes, du miel, des gâteaux...
Des noix.
Ça, c'est encore autre chose. Les noix, les figues, tout ça sont les fruits de saison qu'on mange à Rosh Hashanah et à Kippour parce qu'ils viennent d'arriver sur nos marchés. Donc, ce sont les nouveaux fruits qu'on inaugure à ce moment-là. Donc, on mange énormément de pâtisseries et on mange aussi la challah, le pain du Shabbat, qu'on fait spécialement pour ces fêtes-là rond, pour que l'année qui commence vous soit douce et n'en finisse pas. C'est très symbolique, la cuisine juive, comme beaucoup de cuisines, d'ailleurs, de minorité, et beaucoup de raisins secs, beaucoup de... Même le poisson, on le fait légèrement sucré, les boulettes de gefilte fish,
la carpe farcie,
les crêpes qu'on met dans le bouillon, ou les kneidler, comme Julia Valak nous en a donné un petit extrait. Les crêpes qu'on fait à Rosh Hashanah et à Kippour, la viande est légèrement caramélisée, avec les oignons qu'on fait frire pour faire cette petite farce comme ça, légèrement sucrée, pour que cette année, effectivement, soit vraiment douce.
Claudia Roden, la cuisine des fêtes, c'est une cuisine extrêmement importante pour les Juifs et cette fois aussi bien pour les Ashkénazes que pour les Séfarades. Est-ce que chaque fête a sa cuisine, c'est-à-dire ses rituels, ses rites alimentaires particuliers?
Oui, mais nous avons tous les Juifs partout, ont le même symbolisme. Mais chaque pays et chaque région, quelquefois chaque ville, a ses spécialités avec le même symbolisme. Mais tout le monde avait dans les pays séfarades surtout le mouton, la tête de mouton qui était symbole de mérite. Et quelquefois c'était des beignets de cervelle ou la langue de mouton. C'était ça le symbolisme. Mais pour les grains, par exemple... Les grains sont des symboles d'abondance et de fertilité. Alors c'était la grenade, la figue, les grains de sésame. Les plats, des aliments ronds sont symboliques que l'année soit pleine et satisfaisante. On faisait tout genre de pilaf, des omelettes, à tout avec des gratins, des beignets, des tartes, tout avec des légumes verts. Et c'était le symbolisme du nouveau. Et puis, il fallait faire aussi quelque chose de doré, d'or, parce que c'était la couleur de la prospérité. Il y avait comme chose douce, c'était du miel, du safran, parce que c'est doré.
Florence Kahn, cuisine très symbolique, nous dit Claudia Roden. J'ai lu que le poulet était l'aliment à l'honneur de Kippour, sachant que Kippour, c'est un jour de jeûne, hein, donc on mange...
Bien sûr.
La veille, et puis on mange le lendemain de Kippour. Mais le poulet, il symbolise quoi?
Alors, je vais vous expliquer. Il est de coutume, depuis la fin de l'ère talmudique, il est de coutume de faire entre Rosh Hashanah et Kippour des kaparot, c'est-à-dire des expiations. Et pour symboliser l'expiation, chaque personne, chaque juif devait prendre un poulet pour tous les garçons ou hommes, ou une poule pour les filles et les femmes, et devait demander au shochet, c'est-à-dire l'abatteur rituel, d'abattre ce poulet, qui n'est pas destiné à l'alimentation de la famille, mais qui est pour symboliser l'expiation. Et ensuite, on devait donner cette volaille à plus miséreux que soi. C'était une volaille qui était donnée pour la charité. Donc le poulet était très important. Voilà.
Ce qui est sûr, c'est que la cuisine juive, là je rassemble les deux traditions culturelles dont nous parlait Claudia Roden, la séfarade et l'ashkénaze, cette cuisine juive, elle est quand même faite de prescriptions et d'interdits. Alors beaucoup plus quand on est religieux que quand on s'adresse simplement à la culture et à la tradition culinaire et culturelle. Mais Claudia Roden, c'est une cuisine qui est faite d'interdits. Ça, c'est valable pour les deux cultures.
Oui, mais très souvent, les interdits donnent des résultats très bons. Par exemple, à Pâques, on ne peut pas manger des choses qui, de levain et de la farine, par exemple. Alors, au lieu de ça, on faisait des gâteaux avec de la farine d'amande ou de la farine de pommes de terre. Et alors, c'était un nouveau plat qui était particulièrement juif et qui était très bon.
Florence Kahn. Sur ces interdits.
Alors, sur ces interdits, vous savez qu'il y a 613 commandements de Dieu pour l'homme juif. Et il est de coutume de mettre cette grenade sur la table de Rosh Hashanah ou de Kippour parce que la légende court qu'il y a dedans 613 grains qui correspondent donc aux commandements.
Racontez-nous ce qui se passe dans votre boutique en ce moment.
Ah, il y a une effervescence, c'est terrible. D'abord, les odeurs du matin au soir, des odeurs extrêmement festives. On a, vous voyez, ce petit gâteau là que je vous ai apporté.
Ah, vous nous avez apporté des gâteaux.
Je vous ai apporté un petit gâteau au miel. Un petit Honeckleker, c'est un gâteau au miel et aux fruits secs. Alors ça, c'est vraiment le summum. Bon, faut pas en manger beaucoup, mais il faut vraiment en manger un petit peu. D'ailleurs, vous allez goûter. Tiens,
on va goûter. Pierre, où est donc cette boîte?
C'est un gâteau de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est cette odeur du miel qui cuit. Alors c'est un gâteau qui cuit à très basse température et qui cuit assez longtemps. Entre 1h30 et 2h de cuisson, ça dépend un petit peu le four. On met ce gâteau vraiment en dernier et on laisse le four éteint et ça cuit tout seul. Alors ça prend le temps que ça prend, selon la température au départ. Mais ce gâteau est extrêmement olfactif et ça donne une odeur de fête, quelque chose d'irrésistible.
Bon alors Mathéo ne doit pas goûter parce que Mathéo va juste parler dans une poignée de secondes. Mais Pierre et Bernard, vous pouvez décrire ce que vous venez de manger.
Vraiment très très bon. Il y a quand même un petit goût de miel.
Il y a le miel qui
cuit. Il y a un petit côté pain d'épices dans ce qu'on
voit
passer.
Absolument. On met des épices, on met de la girofle, on met de la cannelle, on met des raisins secs, on met des amandes, des noisettes qu'on fait griller auparavant, qui se caramélisent un petit peu avec le miel. C'est quelque chose d'exquis. Mais bon, faut y aller gentiment, hein.
Doucement. Allez, on va en manger encore quelques petits morceaux. Je vais d'ailleurs goûter pendant qu'on écoute la Madeleine de Matteo Caranta dans Les Bonnes Choses sur France Culture.
Tu veux steak haché? Du foie, tu veux?
Ouais,
du
foie, j'aime
bien. Tu veux des boulettes?
Qu'est-ce que tu veux comme poisson?
Colin pané.
Pour le moment, j'ai 4. Il y a 3 ici.
Tu veux brioche pour le matin?
Tu aimes les fèves? Tu veux pas de ratatouille?
Non.
D'accord.
Ça n'est pas de ratatouille qu'elle nous parle, Rebecca Zlotowski.
Mais non, c'est pas de ratatouille. Vous l'aviez reçu il y a 2 semaines. Alors, on parle beaucoup de Rebecca Zlotowski cet automne, puisqu'après, elle a fait Une fille facile, son long-métrage qui parcourait le désir le temps d'un été suspendu à Cannes. Et puis, elle remet le couvert avec une série, Les Sauvages. Alors, changement de ton avec Les Sauvages, puisque Les Sauvages traversent des questions politiques avec un début courageux. La France élit un président issu de l'immigration. Et la question sous-jacente, évidemment, c'est quoi être français? Eh bien, pour ça, Madeleine, Rebecca Zlotowski répond à sa manière puisqu'elle remonte à ses étés niçois auprès de sa tante juive marocaine.
La dafina de ma tante Nelly, qui a un plat assez typique marocain, qui n'est pas léger, même si elle avait le plaisir de dire toujours c'est maigre. C'est, je pense que beaucoup de Marocains de culture juive ou d'Algériens de culture juive pourront se rappeler leur mère, leur grand-mère, leur tante dire « mais c'est maigre » en balançant la bouteille d'huile, bien sûr. C'est un plat qui est formidablement chaud, réconfortant, varié, parce qu'il y a énormément d'ingrédients. Des œufs durs qui sont marrons, je ne sais pas comment ces œufs peuvent être et durs et cuits à l'intérieur de la daffina. Beaucoup de pois chiches, différentes variétés de viande, quelques légumes. Et elle est, pour les plus intrépides, servie avec du couscous, je pense. Mais nous, on l'a mangé sans couscous. Ça ressemble un peu à un tagine, ouais, mais ce serait moins mijoté. Les morceaux sont plus gros qu'un tagine, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une saveur très aqueuse, huileuse, mais donc savoureuse, donc parfumée. Il y a vraiment un aspect fondant en bouche qui fait disparaître la viande comme un dessert et donne l'impression que c'est pas du tout comme un borsch ou une soupe, c'est vraiment comme un colombo de poulet, je dirais, vous voyez? J'ai un souvenir de ce repas, c'était souvent au mois d'août, parce que moi je voyais ma tante chérie qui habitait à Nice, plutôt au mois d'août, au mois de juillet. Et donc, la daffina, d'abord on disait pas la daffina, on disait la daff. Je pense que ma tante, elle disait « tu veux une daff ?» Quand elle sentait qu'elle avait été désignée comme une excellente cuisinière autour d'elle, elle en retirait de la fierté. Et de la fierté vraiment comme un travail accompli, hein. C'était quasiment ça. Et je me souviens de cette phrase, parce qu'elle avait beaucoup de malice, d'humour et de sensualité, elle disait « je les ai éclatées ». Moi, je sais faire quelques boulettes coriandre citron, mais je cuisine peu et puis je cuisine pas du tout. J'ai pas le savoir-faire de la daffina. Et je pense que si j'en ai pas le savoir-faire, c'est aussi parce que les femmes de ma famille sont mortes avant de me le transmettre. Et donc, c'est vrai que ça raconte. Je pense que le fait d'être aussi associée à ce plat-là, le fait que quand vous m'ayez posé la question, j'y ai pensé tout de suite, c'est aussi parce que d'une certaine manière, il restera associé à la présence réconfortante de ma mère, de ma tante, qui sont mortes quand j'étais assez jeune. Je retire mon patronyme vraiment de mon père qui est donc ashkénaze. Je peux vous assurer que chez les ashkénazes, la nourriture, c'est plus une punition. Enfin, en tous les cas, c'est la nourriture de pauvres. Donc le gefilte fish qui sera l'objet peut-être d'une autre chronique.
Ah, vous avez réussi à faire rire, à faire rire Florence Kahn avec cette dernière petite réflexion. Claudia Roden, on entendait Rebecca Zlotowski dans cette Madeleine parler de cette daffina. Vous avez grandi en Égypte, donc plutôt du côté séfarade, et vous dites dans le livre de la cuisine juive que chaque plat raconte un morceau de l'histoire des Juifs, que c'est une cuisine de monde disparu, de peuple déraciné, c'est une cuisine de souvenirs. Quel souvenir avez-vous? Le gâteau à l'orange?
Oui, et justement, j'ai les souvenirs d'Alep, parce que 3 de mes grands-parents sont venus d'Alep, et une grand-mère est venue d'Istanbul. Alors j'ai les souvenirs de ces deux endroits, ces deux villes.
Florence Kahn, on parlait de mamie au tout début de cette émission avec l'extrait de ce film de Frankie Wallach. Là, Rebecca Zlotowski parle de la daffina de sa grand-mère marocaine. Chez vous aussi, il y a des mamies, des grand-mères qui ont transmis tout ce que vous savez faire aujourd'hui?
Bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'ai le souvenir de cette compote qu'on fait pour les fêtes, notamment Rosh Hashanah et Kippour, ça tombe bien. C'est une compote de fruits secs entiers. Donc, des pruneaux, des abricots, des figues, tout ça entier. C'est mis en macération avec du vin et du sucre. Ensuite, on fait cuire ça à feu doux pendant une petite heure. Et ça se mange à température ambiante. Et on décore avec un petit peu d'amandes effilées ou d'amandes hachées, préalablement grillées. Et ça sent, mais juste le bonheur.
Est-ce que vous cuisinez comme on a toujours cuisiné dans la culture qui est la vôtre, ou est-ce que ça s'adapte, les plats, les recettes juives ashkénazes, Florence Kahn?
Alors, moi je les ai adaptées à la ménagère d'aujourd'hui, on va dire. Parce que mettre une casserole et la surveiller pendant 4 heures, c'est plus possible. Donc maintenant on fait un peu plus à la cocotte minute, on fait un petit peu plus au micro-ondes. Donc j'ai essayé de faire pour que ça soit sympathique à faire et facile, et pas trop long, pas trop fastidieux. J'ai simplifié quelques recettes aussi. Ça, c'est dans le deuxième livre.
Le premier, vous l'avez sous les yeux.
Le premier,
hein.
C'est celui-là.
Il est ouvert à quelle page, le premier, là?
Ma compote.
Ah, la fameuse compote. Moi, je pensais que vous l'ouvriez.
À compote.
Vous l'ouvririez à la page du borsch.
On peut, mais
je crois que vous aimiez particulièrement le borsch.
C'est pas de saison.
Ah, c'est ça.
c'est pas de saison, c'est un petit peu plus tard. Dès qu'il fait un peu plus froid, alors oui, on fait du borscht avec des pirogues qui a la viande, avec les, alors soit le borscht avec les légumes, soit le borscht avec juste la viande, et c'est très très joli. Moi, j'adore cette couleur rouge, un petit peu acidulée, un petit peu électrique.
Claudia Roden, est-ce que vous diriez que c'est une cuisine, là aussi je les rassemble, hein, les deux traditions. Est-ce que vous diriez que c'est une cuisine vivante, une cuisine qui peut s'adapter à la modernité, ou c'est une cuisine parce qu'elle charrie, par la mémoire, par les souvenirs, par ce que vous dites de ces peuples déracinés et de ces mondes disparus, ancrés dans le passé?
Oui, elles sont ancrées dans le passé, mais jusqu'à récemment, tout le monde qui avait cette culture, qui héritait cette culture, voulait la continuer. Et la continuer surtout au moment des fêtes. Mais je ne sais pas si ça continuera maintenant, parce que les nouvelles générations ne prennent pas les recettes de leur mère. Maintenant, c'est sur l'Internet qu'ils cherchent des recettes. Et c'est peut-être que ça va changer aussi. Les gens pensent à inventer et se moderniser, mais surtout à inventer. Et moi, par exemple, d'Amérique, je reçois toujours des demandes sur des recettes qu'ils veulent, mais ils les font avec des différents aliments totalement différents. Et ce n'est pas du tout la recette originale. Bien sûr, il n'y a pas de recette tout à fait originale. Elles ont toujours un petit changement quand on change de pays, parce qu'on prend ce qu'on trouve dans le pays. Mais maintenant, il y a une différente attitude qu'on peut inventer continuellement, entièrement, et appeler ça du nom de la recette originale.
Florence Kahn.
Alors, il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mères. Donc c'est vrai que c'est très discutable. Il n'y a pas de recette juste. Il y a des goûts, il y a une mémoire du goût. Et je pense que la nouvelle génération est très à l'écoute de ça et a très envie de continuer justement. Moi, je les vois tous les jours, toutes les semaines. On me demande des cours de cuisine, on me demande.
Vous recevez des jeunes dans la boutique, beaucoup?
J'ai pas la place, malheureusement, ni de faire des cours, ni de recevoir, mais je fais un service après-vente. Si quelqu'un essaye une recette et a un problème, m'envoie une photo et je rectifie et on en parle et on voit un petit peu où était le problème et on arrive à un résultat. Il y a, à mon sens, une nouvelle demande, justement, de cette génération adulte, jeune d'aujourd'hui, qui veut absolument perpétuer et s'approprier ces recettes ancestrales et les mettre au goût du jour, pourquoi pas? On va pas les dénaturer parce qu'on va les moderniser un petit peu. L'essentiel, c'est que ça soit encore mangé, que les Kneidler soient mangés comme ils sont aujourd'hui, en farine de matza avec des œufs, ou qu'on y rajoute des oignons, pourquoi pas? Si dans quelques années, on met des amandes dedans, pourquoi pas? Ça restera des Kneidler de toute façon qu'on mangera avec le bouillon.
Allez, on va rester sur ce pourquoi pas. Alors, merci beaucoup à toutes les deux, Florence Kahn et Claudia Roden, d'être venues dans Les Bonnes Choses nous parler des cuisines juives, donc. Et restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau.
Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land.
Pierre, alors, vous nous racontez une histoire de France à pleines dents.
C'est ça, je vous parlais d'un livre qui a été édité à Londres l'année dernière et dont la traduction française est désormais disponible. Et pour mal commencer, méfiez-vous de son titre bateau, Histoire de France à pleines dents, qui est une mauvaise traduction de ce que sa version originale laissait transparaître, A Bite-sized History of France, que l'on pourrait traduire par Une histoire de France en bouchée. Certes, ça
Boucher
sonne moins
ES, bien.
Boucher ES, bien sûr. Boucher ES. Certes, ça sonne moins bien, mais ça a le mérite de rendre compte du projet des auteurs qui sont entrés avec cet ouvrage dans le métier d'historien par le petit bout de la lorgnette gastronomique. Rendez-vous compte. Stéphane Hainaut est français, dingo de fromage jusqu'à en devenir un grand spécialiste, et Jenny Mitchell est américaine, jeune diplômée d'histoire, quand elle tombe amoureuse de Stéphane, des fromages et de toute l'identité culinaire des terroirs français. Bref, le genre de love affair qui donne généralement lieu à des bouquins mièvres ou en langage pâtissier cucu la praline. Et puis non, Stéphane et Jenny ont produit un ouvrage drôlement intéressant, drôlement devant être ici entendu au sens premier. Découpé en 52 chapitres qui ne dépassent guère les 6 pages, sans doute pour vous occuper 52 semaines. L'idée est de partir d'un mystère, d'une question culinaire bien française, d'une petite histoire, et de la rattacher à la grande histoire. Tiens, par exemple, vous baladez à Limoges et vous pensez immédiatement à Art de la Table. Vous vous intéressez pas du tout à une statue de Marie planquée à la chapelle dite Notre-Dame des Petits Ventres, déjà ça intrigue, et qui porte un enfant Jésus se régalant, devinez quoi, d'un rognon. Et c'est à partir de ce Limoges-là, moins connu, que les auteurs vous entraînent dans l'histoire qui préside à la désignation des saints patrons, des artisans, des commerces de bouche. Le style n'est en aucun cas académique, mais touche juste là où l'identité culinaire française s'est forgée, c'est-à-dire dans ses multiples terroirs. Et puis, cerise sur le gâteau de cette cerise sur le gâteau, si je puis ainsi m'exprimer, on a quelques réponses à des questions fruitières essentielles. Par exemple, Caroline, Mathéo, Florence, vous voyez bien comment ont été créées les expressions « couper la poire en deux »,« se presser le citron » ou « mi-figue, mi-raisin ». Mais connaissez-vous l'origine de « compter pour des prunes » ?
Non,
absolument ça m'intéresse. Pas.
Voilà, l'histoire est longue et remonte à 1148 quand les armées européennes décidèrent d'attaquer Damas à l'occasion d'une deuxième croisade soldée par un cuisant échec. Si ce n'est ce minuscule trophée ramené par des Templiers dans le sud-ouest de la France, un prunier de Damas. Ainsi, ces valeureux guerriers avaient combattu pour des prunes. Autre qualité de cet ouvrage, Stéphane et Jenny ne se sont pas contentés de s'intéresser à la cuisine, mais ont beaucoup creusé l'histoire de nos vignes, avec notamment le chapitre consacré aux côtes du Rhône intitulé Un rouge pontifical, celui dédié au champagne, intitulé Les bulles du diable, ou encore le surprenant Un vignoble de perdu, consacré à la guerre historique entre Bordeaux et Bourgogne. Sinon, Caroline, Mathéo, Florence, Cucu la praline, ça vient d'où ?
Bon, c'est pâtissier, vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, bah, les explications les plus fantaisistes circulent, mais en réalité, nul ne le sait et on ne trouve aucune explication dans ce livre.
Mais ça n'empêche pas qu'on aille se procurer ce livre qui donc vous a beaucoup plu, Pierre. Hiverna, Histoire de France à pleine dents, c'est édité chez
Flammarion.
Merci, on retrouvera bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, à la page des bonnes choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécoutant en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe Stéphanie Villeneuve, Virginie Ledio, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Laurie Vachon, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signe des Temps par Marc Witzmann.